Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 21 octobre 1805, la bataille de Trafalgar. Trafalgar, un mythe, la place la plus célèbre de Londres, mais aussi et avant tout, la grande défaite navale de Napoléon Ier. Le 21 octobre 1805, une bataille qui marque la fin d'un monde, celui des grands vaisseaux de bois et de voiles. Le 19e siècle sera celui de l'acier, de la vapeur et de la révolution industrielle. Trafalgar, une suite d'événements héroïques, un combat de géants dans un déluge de fer et de sang. C'est une tragédie avec la mort dramatique durant le combat de l'amiral anglais Horatio Nelson, puis le suicide de son rival malheureux, l'amiral français Pierre de Villeneuve. Enfin, le décès 10 années plus tard d'Emma Hamilton, épouse de l'ambassadeur d'Angleterre à Naples, le grand amour de Nelson. Les marins français portent une cravate noire pour commémorer ce désastre. Trafalgar se situe au sud-ouest de la côte espagnole, entre Cadix et le détroit de Gibraltar. C'est le passage obligé de tous les navires allant de l'Atlantique à la Méditerranée. C'est un véritable verrou. En mai 1803, l'Angleterre rompt unilatéralement la paix d'Amiens, conclue avec la France le 25 mars 1802. Elle saisit les navires français établis dans ses ports et bloque Brest, Rochefort et Toulon. Bonaparte ne réagit pas immédiatement aux provocations britanniques en raison de la précarité de la marine française. Une majeure partie des officiers a émigré, quelques navires sont passés à l'ennemi. Plusieurs ont été coulés, tous manquent d'entretien. En 1803, la France n'a qu'une cinquantaine de vaisseaux en piteux état à opposer aux 150 bâtiments de la flotte anglaise. Cependant, Bonaparte entend réagir à la provocation britannique. Il envisage de débarquer sur les côtes anglaises entre Hastings et Douvres, puis de marcher sur Londres. Pour ce faire, 2500 chalands manœuvrés à la voile et à la rame sont construits sur le littoral du Nord entre Le Havre et Anvers. Chacune de ces embarcations transporte une centaine de soldats et une vingtaine de chevaux ou quelques pièces d'artillerie avec leurs munitions. Ce projet, appelé le Grand Dessein, est dirigé par l'amiral Villeneuve. L'empereur se rend plusieurs fois en inspection sur la côte de Boulogne et participe à des exercices d'embarquement et de débarquement. La première difficulté consiste à sortir les navires français bloqués par la marine britannique. À Brest, les tentatives échouent. À Toulon, le 30 mars 1805, Villeneuve profite du Mistral pour appareiller en trompant la vigilance de Nelson qui se lance le lendemain à la poursuite des Français vers la Méditerranée orientale, pensant qu'il se dirige vers l'Égypte. Dans un premier temps, Villeneuve rallie Cadix et fusionne avec la flotte espagnole de l'amiral Federico de Graniva. Pour tromper Nelson, il prend ensuite la route des Antilles, mais les équipages britanniques le rattrapent aisément. Après quelques escarmouches dans les îles anglaises des Antilles, Villeneuve met le cap sur la Manche, espérant trouver des renforts. Le destin en décide autrement. Les vaisseaux français sont toujours enfermés dans Brest. De plus, l'Autriche attaque la France. C'est la fin du grand dessein. L'empereur lève le camp de Boulogne et envoie la grande armée en direction de Vienne. La flotte de Villeneuve reçoit l'ordre de retourner en Méditerranée. L'Espagne étant alliée de la France, elle fait escale à Cadix pour embarquer des vivres. Nelson décide alors de se poster au large de Trafalgar, où il est certain de rencontrer la flotte franco-espagnole. Napoléon Ier demande à Villeneuve de ne pas affronter une force anglaise supérieure. L'amiral, jusque-là très prudent, appareille de Cadix le 19 octobre 1805. Il croit la météo favorable. Elle est en fait mauvaise. Il pense la flotte britannique limitée à 18 vaisseaux. Ils sont en réalité 27, souvent à trois ponts, plus rapides et mieux armés que les navires français. La bataille débute le 21 octobre, peu après 13 heures. Nelson dispose ses bâtiments sur deux colonnes perpendiculaires à la ligne franco-espagnole. Chaque colonne coupe la file et se resserre sur les navires ennemis, pris en étau, assaillis de tous côtés, dématés et balayés par la canonnade qui cause des centaines de morts et de blessés. Le combat est terriblement meurtrier. Nelson, à bord du Victory, est touché par un tir de pistolet. Le récit de son agonie contribue à forger sa légende. Colonne vertébrale brisée, entièrement paralysée, membres glacés, Nelson, qui a déjà perdu un œil et un bras, refuse l'intervention d'un chirurgien. Il s'informe du déroulement de l'affrontement, il donne des ordres et charge le vice-amiral Cuthbert Collingwood de commander la flotte. À l'issue de 5 heures de combat, la victoire anglaise est totale. La flotte française perd la moitié de ses bâtiments. Les Britanniques comptent moins de 2000 morts et blessés contre 5000 du côté français et 1500 pour les Espagnols. Nelson rend l'âme vers 16 heures au moment où la bataille touche à sa fin. Son corps est placé dans un tonneau de rhum et le Victory est remorqué vers Londres où des funérailles nationales sont célébrées le 5 janvier 1806. Villeneuve est fait prisonnier. Il assiste à la cérémonie funèbre. Il est ensuite libéré sous le serment de ne jamais reprendre de service contre l'Angleterre. Il est conduit à Morlaix, d'où il prend le chemin de Paris pour fournir des explications à l'empereur. Dans une auberge proche de Rennes, il s'enferme dans sa chambre et se transperce le cœur avec un couteau. Quelques semaines plus tard, l'amiral Gravina décède à Cadix des suites de ses blessures. La marine française ne possède plus qu'une trentaine de bateaux. Malgré un effort considérable de construction navale dans tous les ports de l'Empire, la lutte sur mer n'est plus possible. La France est condamnée à n'être plus qu'une puissance continentale. Pour un temps, les mers appartiennent aux Anglais. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant d'aborder la chronique littéraire « Un jour, trois livres ». C'est le duo Amadou et Mariam qui nous transporte en Afrique du côté du Mali, précisément à Bamako avec un titre de 2005, « Dimanche à Bamako ».
C'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. Les djembés, les dounous. C'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les parents et les sympathisants sont au rendez-vous. Les copains et les voisins sont au rendez-vous. Les foulées et les djellis sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les hommes et les femmes ont mis les beaux boubous. Les bijoux et les chaussures sont au rendez-vous. Les bazins et les gogolans sont sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Il est venu le temps de la chronique littéraire qui a été préparée par Emmanuel. Pour commencer, la prophétie des Marguerites, c'est signé Alain Léonard aux éditions de Boré. Aînée de 6 enfants, Jeannette a grandi dans une ferme près de Clermont-Ferrand. Alors que son père sombre dans l'alcool, elle rencontre Marius à Rion dans l'hôtel-restaurant où elle travaille comme bonne à tout faire. En 1867, elle part travailler avec lui à Paris. Ensemble, ils découvrent la vie d'ouvrier dans une filature de Vaugirard, les premières grèves, un Paris du monde ouvrier avec ses luttes et ses malheurs. C'est aussi le Paris des travaux d'Haussmann et celui de l'exposition universelle qui est retracé dans ce roman. Mais lorsque Marius décède accidentellement, Jeannette, sans argent, est arrêtée pour vol et condamnée à 6 mois de prison. Mais la prophétie des Marguerites ne s'est pas encore concrétisée. La prophétie des Marguerites, c'est signé Alain Léonard et c'est publié aux éditions de Boré. Un kibbutz en Corrèze, voici un roman tiré de faits réels. Des jeunes Allemands, au nombre desquels figurent Sarah et Johann, juifs et communistes, intellectuels, fuyant l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir avec le soutien du baron de Rothschild, créent en 1933 un kibbutz dans un petit village corrézien. Après leur apprentissage dans cette ferme, ils ont pour objectif de partir en Palestine. S'ils vivent en autarcie, ils font néanmoins connaissance avec des villageois. Si pour certains d'entre eux, rescapés de la Grande Guerre, ils sont des boches, les autres les regardent avec bienveillance. Mais Frédéric, le fils du sous-préfet fasciste de Brive-la-Gaillarde, fréquente la jolie Sarah et l'épousera. Si certains de ces jeunes ont quitté le kibbutz pour la Palestine dès 1935, d'autres vont subir les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Johann et Frédéric s'engagent alors dans la résistance, l'un auprès des gaullistes dans le groupe d'Edmond Michelet, l'autre chez les communistes du colonel Guingouin. Et Sarah, elle, décédera à Auschwitz. Un kibbutz en Corrèze, c'est signé Jean-Luc Aubarbier, c'est publié aux éditions Presse de la Cité dans l'excellente collection Terre de France. Et pour finir cette chronique, un jour trois livres, De la rue à la route, itinéraire d'un homme libre, de Gaël Gallini aux éditions Favre. Gaël avait 19 ans lorsqu'il s'est retrouvé sans domicile fixe, qu'il est tombé dans la rue et qu'ainsi il n'a pu terminer sa formation professionnelle. Vivre comme un vagabond a été pour lui une souffrance physique et surtout psychique, avec la honte, la solitude et la peur. Ce livre n'est pas une plainte, c'est son témoignage, non pas tellement de sa chute, mais de sa façon de se relever. Nous passons de rencontre en rencontre, emplis de solidarité humaine, jusqu'à l'aide pour le financement de son camping-car après un terrible accident, mais aussi de l'écriture même de ce livre. Nous le suivons dans son cheminement accompli avec dignité, ténacité et fierté, sa vie de saisonnier nomade parcourant la France de route en route, s'émerveillant de ses beautés avec son chien Chips aux yeux pleins d'amour pour son maître. à nous aussi de regarder ceux qui vivent autrement avec les yeux de chips. De la rue à la route, itinéraire d'un homme libre, c'est signé Gaël Gallini et c'est publié aux éditions Fabre et c'est chaudement recommandé par Emmanuel qui a préparé cette chronique et qui a un amour immodéré pour les chiens chips et donc son coup de cœur. Merci à Lucas qui a réalisé cette émission. Nous nous séparons en musique avec des rythmes africains. C'est le duo Amadou et Mariam de l'album Welcome to Mali de 2008. Nous écoutons Sabali et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures historiques.
Avec toi chérie, la vie est belle.